Et on part direction le Parlement jurassien, c'est l'heure des questions orales. On retrouve Émilie Momentaler, bonjour.
Bonjour, bienvenue à l'hôtel du Parlement à Delémont. 15 questions orales ont été déposées et on va...
Relaté par le journaliste dans des méthodes douteuses et hasardeuses, pour ne pas dire déloyales et malhonnêtes, par plusieurs concurrents, renforce encore davantage nos craintes qu'au final, ce changement de concession se fasse sur le dos des employés actuels des lignes de bus du Jura. Les événements relevés parlent d'eux-mêmes et sans une prise de conscience du gouvernement, le dumping salarial ne pourra pas être évité. Comment en est-on arrivé là? Quand on sait la pression et l'incertitude professionnelle que cette mise en soumission exerce sur les employés de Carte Postale et des CJ, quand on connaît la frustration des syndicats de n'avoir jamais été compris ou simplement entendu, quand on peut imaginer la déception et la rage des députés qui ont accepté la motion de Pierluigi Fedele, dont celle-ci a été jugée irrecevable et inapplicable en l'état. Autant de thèmes qui sont repris dans l'interpellation que je viens de déposer ce matin au bureau. Mais j'en reviens à ma question de ce jour au gouvernement. Elle est en fait simple et résume tout bonnement mon interrogation. De qui se moque-t-on? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
C'était la première question avec Nicolas Maître d'Épouville.
Je vous remercie, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret. Pour les prochaines questions, je prie les députés de se lever pour des questions d'audition. Il semblerait que les micros donnent nettement mieux lorsque l'on est debout. Donc, on va faire les essais nécessaires. Pas de souci. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
Voilà, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Votre question, effectivement, monsieur le député, fait suite à un reportage qui a eu lieu hier sur une radio nationale et qui, effectivement, relate certaines pratiques de certaines entreprises qui cherchent, effectivement, semble-t-il, à monter un dossier d'offres le plus proche possible de la réalité et qui, effectivement, semble avoir stupéfait certains employés des entreprises actuelles de par le fait qu'ils ont été filmés, photographiés, suivis, questionnés, etc. Votre question comporte un élément intéressant. Vous dites, comment en est-on arrivé là? Alors, effectivement, comment en est-on arrivé là? Si vous faites un petit peu l'historique du dossier d'appel d'offres pour les transports publics par bus, effectivement, nous étions, il y a 2 ans, en discussion avec une entreprise active dans le canton du Jura, Carte Postale, pour ne pas la citer, en discussion pour définir une convention d'objectifs, ce qui est préconisé, une des pistes préconisées par l'Office fédéral des transports, par les forces syndicales, par les entreprises pour trouver finalement la meilleure solution possible au niveau économique, financière et au niveau de la qualité des prestations à la fois servies aux personnes, aux voyageurs et également pour les employés des entreprises. Malheureusement, durant cette procédure de négociation de convention d'objectifs, l'entreprise en question a envoyé une offre au canton du Jura faisant fi de toutes les discussions, ajoutant dans les montants par exemple 400 000 francs de frais non justifiés pour les coûts de carburant, ajoutant des frais par-ci par-là pour des centaines de milliers de francs non justifiés, non justifiables, inexplicables et inacceptables pour le canton. Et c'est à ce moment-là, ayant subi cet affront finalement et ayant perdu confiance dans ce partenaire, que le canton a décidé de ne pas renouveler la concession avec ce partenaire et de mettre au concours les lignes de bus. Donc voilà comment on est arrivé là. Suite à cela, eh bien, le scandale Carte Postale a éclaté. Vous avez certainement pu en prendre connaissance. Qui a démontré que l'entreprise a détourné plus de 200 millions de fonds publics aux collectivités cantonales, fédérales, communales. Donc ceci a confirmé finalement que nous avions eu un mauvais sentiment envers cette entreprise qui s'est confirmé et finalement cela nous a rassurés dans notre démarche. Actuellement, où en sommes-nous? Eh bien, l'appel d'offres est en cours, les entreprises qui souhaitent le marché sont en train d'y travailler et effectivement, qui sont finalement les personnes qui vivent actuellement dans l'insécurité de leur avenir au niveau de leur employeur et de leur contrat de travail, ce sont les employés des entreprises, qui finalement sont actuellement dans une incertitude liée à des choses pour lesquelles ils ne sont pas responsables, et nous le regrettons. Mais dans l'intérêt des finances publiques, dans l'intérêt d'avoir une maîtrise de ce qui se passe avec ces transports publics pour un marché quand même à 20 millions par année, le gouvernement pense quand même qu'il était judicieux, au moment où la rupture de confiance a eu lieu, de mettre au concours ces lignes de bus. Et nous avons pris toutes les dispositions pour que cela se fasse de la meilleure des manières, pour que, à la fois au niveau économique, nous reprenions le contrôle de ce qui se passe avec nos partenaires, et également pour que les conditions de travail soient les meilleures possibles, puisque dans l'appel d'offres, plusieurs critères font état de ces éléments pour que, finalement, les employés des entreprises actuelles, dans le cas où les entreprises changeraient, puissent retrouver un emploi dans des conditions proches de celles qu'ils ont actuellement.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation ? Monsieur le député, Nicolas Maître n'est pas satisfait. Nous passons à la deuxième question orale et pour ça, je passe la parole à monsieur Michel Chauffat.
Monsieur le président, monsieur mesdames, Chauffat, messieurs, même si les informations parues dans la presse régionale sont plutôt rassurantes, il est difficile de croire à la sincérité de tous les participants à la conférence tripartite du 21 octobre dernier. Au PDC, nous ne croyons plus, pour tout autant que nous ayons cru un jour, à la bonne foi du Conseil exécutif bernois. Quant à l'engagement du Conseil fédéral, si ce dernier s'était investi comme il devait, la question jurassienne aurait certainement été réglée le 23 juin 1974. Dès lors, le gouvernement peut-il nous assurer que la date du vote à Moutier sera fixée en juin 2020 et que le Conseil fédéral jouera réellement son rôle? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Charles Juillard.
Charles Juillard, ministre délégué aux Affaires jurassiennes.
Mesdames et messieurs les députés, vous assurez que la nouvelle votation à Moutier aura lieu le 21 juin 2020. Le gouvernement jurassien ne peut évidemment pas le faire puisqu'il ne lui appartient pas de fixer cette date, mais celle-ci est de la compétence de la municipalité de Moutier, de concert avec le conseil exécutif bernois. Lors de la dernière tripartite du 21 octobre dernier à Berne, nous avons pu discuter d'un certain nombre de points, de détails, mais certes importants, qui ont été relevés comme étant problématiques par le tribunal administratif bernois et qui devront être réglés avant l'organisation de la nouvelle votation à Moutier. Ce qu'il faut relever, cependant, c'est que l'ensemble des acteurs ou des partenaires présents lors de cette tripartite ont confirmé leur intérêt à aller rapidement dans cette nouvelle votation, toutefois dans une votation qui soit, on l'a appelé, la plus propre possible, puisque, semble-t-il, la dernière ne l'a pas été, selon les tribunaux, ce dont nous prenons acte. Il s'agit donc de régler un certain nombre de cas, par exemple la problématique du vote par correspondance, par exemple la surveillance et respectivement l'accompagnement du vote. Vous avez vu que le gouvernement jurassien a fait une proposition d'une commission qui accompagnerait le vote d'un bout à l'autre pour que, justement, les risques de recours qui existeront toujours, mais dont l'issue pourrait être négative cette fois-ci, permettent d'aller rapidement dans cet objectif de voir la prévôté pouvoir à nouveau décider démocratiquement de son sort. Cette volonté d'aller vite a été confirmée, si vous l'avez entendu, sur les ondes de la radio romande ces derniers jours par le président de la délégation bernoise aux affaires jurassiennes, qui a réaffirmé la volonté de régler cette question une fois pour toutes dans les meilleurs délais. Au-delà de cela, monsieur le député, il est difficile pour le gouvernement jurassien, qui est régulièrement en contact avec les autonomistes de Moutier, pour veiller à ce qu'à la fois la procédure, mais aussi que les délais qui ont été annoncés puissent être respectés.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation ? Monsieur le député Michel Chauffat est partiellement satisfait. Et pour la troisième question orale, je passe la parole à madame la députée Géraldine Beuchat.
Géraldine Beuchat, députée PCF.
Monsieur le président, chers collègues, madame et messieurs les ministres, une nouvelle fois la ligne ferroviaire d'Elbeufort fait la une. Après une appréciation au vitriol en mai dernier des associations d'usagers de transport ferroviaire et la décision d'un tribunal d'annuler la déclaration d'utilité publique du projet en juillet, c'est au tour de la Cour des comptes française d'épingler la ligne dans un rapport. Ceci 10 mois à peine après sa réouverture. Pour la Cour des comptes, cette réouverture est contestable. Le rapport entre la faible fréquentation, environ 73 000 personnes par an, et le déficit de près de 4,4 millions de francs, amortissement non compris, est discutable. Les subventions publiques rapportées au nombre de voyageurs sont, selon elle, extrêmement élevées. Et de se poser la question de l'utilisation de l'argent du contribuable quand d'autres modalités de transport peuvent être envisagées. L'importance de cette ligne dans l'articulation générale des transports ferroviaires entre la Suisse et l'Europe n'est plus à démontrer, surtout si l'on veut soutenir une mobilité responsable et ainsi éviter de prendre l'avion ou surcharger le réseau routier. Suite à ce rapport, peut-il y avoir des conséquences pour cette ligne et si oui, quelles sont-elles? Quel engagement le gouvernement entend-il prendre pour affirmer la pertinence de cette ligne? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre David Herret.
Madame la députée, effectivement, nous avons également pris connaissance de ce rapport de la Cour des comptes qui, à notre connaissance, restera sans suite au niveau de l'activité de la ligne Bienne-Belfort. Par contre, effectivement, nous avons aussi observé que le rapport se base sur des chiffres de fréquentation qui sont lacunaires, puisqu'ils ont été relevés quelques semaines après l'ouverture. Donc, il n'y avait pas encore une très grande fréquentation, notamment dû à des travaux en gare de Belfort et la suppression de certains trains le matin. Également, ce rapport ne se base pas sur les chiffres des trains suisses qui vont jusqu'à Mérou. Donc, c'est un rapport qui se base sur des chiffres de fréquentation partiels et qui est donc à considérer comme lacunaire. Par contre, effectivement, nous observons également un contexte défavorable actuellement avec les travaux qui sont toujours présents en gare de Belfort et qui péjorent la qualité du transport et notamment rendent le nécessaire de supprimer certains trains. Également, une absence de coordination en France entre le réseau des bus et le réseau ferroviaire, ce qui ne permet pas finalement d'avoir un réseau intelligent de transport public entre bus et train. Également, des soucis au niveau de l'information aux voyageurs, système de vente, lacunaire avec des défaillances, l'absence de grandes campagnes de promotion, une offre ferroviaire qui est jugée plutôt faible, des horaires également peu lisibles, voire incertain, puisque durant les vacances scolaires françaises, les horaires sont différents des autres semaines. Le week-end également, des horaires plutôt variés et faibles. Et par contre, nous avons un espoir, puisque à court-moyen terme, les travaux en gare de Belfort seront terminés, donc tous les trains circuleront normalement. Nous avons déjà observé, la SNCF également, une croissance, pas énorme, mais une croissance de la fréquentation de cette ligne. Il y a également une gouvernance entre la France et la Suisse qui va être mise en place pour finalement thématiser tous ces enjeux qui sont actuellement problématiques. Et également un programme d'animation, de communication autour de la ligne avec un financement Interreg qui sera lancé sous peu. Je me permets de rebondir également sur la partie de votre question concernant la mobilité douce comparée à la mobilité moins douce, notamment avec énergie fossile. Si on prend l'exemple d'un pendulaire qui ferait par exemple d'Aile de Léman chaque jour pour venir travailler, il peut acquérir un abonnement Jobabo pour un montant de 1129 francs. Donc 1129 francs pour faire d'Aile de Léman tous les jours de l'année. Et si cette personne vient en voiture, comme c'est le cas pour certains, cela représente grosso modo 20 000 km de voiture par année. Et si on convertit ça en francs, ça peut se chiffrer à grosso modo 10 000 francs par année. Donc 10 000 francs par année en voiture contre 1100 et quelques francs en train. Et cela correspond aussi, son trajet en voiture, à l'émission de 3 tonnes de CO2 par année, et on peut aussi dire de 1800 m3 de CO2. Donc on voit que là, la Cour des comptes française pourrait aussi s'intéresser aux individus et leur montrer que leur comportement d'automobiliste est contraire aux principes économiques, puisqu'ils auraient tout intérêt à venir en train au travail chaque jour, et un intérêt économique et un intérêt également environnemental.
Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée, quelle est votre appréciation ? Madame la députée Géraldine Beuchat est satisfaite et on passe à la quatrième question orale. Pour ça, je passe la parole à Monsieur le député Fabrice Maca.
Fabrice Maca, député PS de Kourou.
Monsieur le président, madame et messieurs les ministres, chers collègues. Plusieurs propriétaires de bâtiments à proximité du lieu choisi pour le projet de géothermie profonde en Haute-Saône se sont inquiétés de la perte de valeur de leurs biens immobiliers en cas de secousse sismique provoquée par cette géothermie profonde si le projet devait se réaliser. Il est évident que la valeur des bâtiments touchés serait nettement revue à la baisse et le possible classement de la région comme zone à risque en cas de problème sismique ferait encore baisser la valeur de ces bâtiments. Les banques dans lesquelles les riverains ont leur crédit hypothécaire ont répondu que c'était aux propriétaires de s'assurer contre ces risques. Le problème est que ces propriétaires n'ont trouvé aucune assurance pour assurer ces risques. Le danger est qu'en cas de réalisation de ce projet et qu'un incident survient, il est fort possible que ce soit les propriétaires de maisons endommagées qui fassent les frais de la grande perte de valeur de leur bâtiment. Il n'est pas sûr que la somme assurée par les promoteurs suffise, ni que cette assurance ne couvre la perte de valeur. D'où ma question, comment le gouvernement apprécie-t-il cette situation problématique pour de nombreux propriétaires de Haute-Saône? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
Monsieur le député, dans votre question, vous formulez deux hypothèses qui, effectivement, doivent être réunies pour que le cas d'assurance soit réalisable ou réalisé. Il faut à la fois que le projet soit autorisé par le gouvernement et il faut ensuite que, si le projet se déroule, qu'il y ait effectivement de la sismicité qui provoque des dégâts. Donc, effectivement, en cas de dégâts liés à la sismicité, l'assurance prévue par les promoteurs couvre deux aspects différents. Le premier aspect est lié aux éléments non essentiels d'un bâtiment, tels que les fenêtres, le carrelage, le crépi. Et là, effectivement, la police conclue, prévoit qu'il y ait un remboursement à la valeur dépréciée, donc pas à la valeur à neuf, ce qui fait que cela respecte le principe de non-enrichissement de la personne qui subirait le dommage. Par contre, il y a un autre aspect lié à la structure du bâtiment, où là, effectivement, si la structure du bâtiment serait finalement endommagée, à ce moment-là, il y a un remplacement qui est nécessaire. Et dans ce contrat d'assurance, il est prévu donc une valeur à neuf et non pas une valeur dépréciée, ce qui permettrait de remettre à neuf l'état structurel du bâtiment ou de l'immeuble qui serait endommagé. Je vous rappelle encore que le plan spécial est toujours suspendu par le gouvernement et que jusqu'à nouvel avis, il n'y aura pas de projet qui se développe. Jusqu'à nouvel avis, cela signifie jusqu'à ce que le gouvernement prenne position sur le rapport du CED qui lui a été remis à la fin du mois de septembre.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation ? Monsieur le député Fabrice Maracay est partiellement satisfait. Nous passons à la cinquième question orale. Pour ça, je passe la parole à monsieur le député Claude Gerber.
Monsieur le Président, je regrette de pouvoir poser ma question puisqu'elle vient d'être posée par ma collègue Géraldine Bechat.
Merci, monsieur le député. Nous passons donc à la question orale suivante par monsieur le député Thomas Stettler.
Thomas Stettler, député UDC de Kourou.
Les citoyens de Soyères attendent toujours la propagande des partis pour les élections fédérales. Mais ils s'en passeront. La Poste, seule responsable de ce couac, a perdu les enveloppes. Le maire, agacé par cette affaire, a essayé à maintes reprises de contacter les autorités de la Poste pour relever les problèmes récurrents de distribution de courriers. En fait, les employés doivent changer sans cesse de secteur de distribution et n'arrivent plus à s'approprier les spécificités des clients qui leur sont utiles pour exécuter leur travail correctement. Et je ne suis pas le seul qui trouve inadmissible que les facteurs sont traités comme des pions sur l'échiquier par leur direction. La réponse à la question du maire de Soyères sur les raisons des erreurs de distribution est franchement désolante. Oh, vous savez, c'était l'apprenti. Quel manque de respect de donner la faute aux jeunes en formation. Je pense qu'on ne peut tomber plus bas dans l'argumentation. Aussi, je demande au gouvernement s'il entend secouer la direction et dénoncer la perte de qualité du service public de la Poste.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le député, monsieur le ministre David Herret.
Voilà, monsieur le député, effectivement, vous relevez là un point qui nous a également touché ou sensibilisé au niveau du gouvernement. Et effectivement, nous avons également le fait que l'employeur, la Poste, mette en cause un apprenti pour justifier une erreur, nous a paru quelque peu inadéquat, car un apprenti est là pour apprendre sous la responsabilité d'une personne qui a le métier, qui a le CFC. Et si l'apprenti fait une erreur, c'est finalement au responsable d'assumer les choses, de corriger les choses, de lui apprendre les choses d'une meilleure manière. Mais quand l'employeur met la faute sur l'apprenti, ça peut sous-entendre également que l'apprenti est utilisé comme un travailleur à plein temps, ce qui est questionnant, voire même étrange. Donc le gouvernement, face à cette situation à Soyères, a contacté la Poste, leur a écrit pour également faire part des soucis, non seulement par rapport à cet aspect de l'apprenti, mais un souci par rapport au bon fonctionnement de notre démocratie. Puisque finalement, si les électeurs ne reçoivent pas leur matériel de propagande, comment peuvent-ils se forger une opinion de façon adéquate et de façon réfléchie, reposée, en prenant le temps de lire les différents documents que les partis se donnent de la peine de rédiger, d'imprimer et de distribuer. Donc effectivement, le gouvernement partage votre inquiétude et la relayer auprès de la Poste en espérant que la situation s'améliore et en relevant également que le gouvernement remarque aussi et souligne que les employés de la Poste font du très bon travail dans le Jura par rapport à la distribution du courrier dans des endroits qui ne sont pas toujours faciles d'accès. Et nous tenons à ce que la distribution soit maintenue dans l'ensemble de notre territoire.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Thomas Stettler est satisfait. Nous passons à la 7e question orale et pour ça, je passe la parole à Monsieur le député Christian Spring.
Monsieur le Président, Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, la 5G, pas seulement au centre des débats, mais aussi au centre des villages. Comme nous avons pu le lire dans les journaux, la pose d'une antenne 5G au centre du village de Courchapois pose débat. En effet, selon les mesures LUS, liens d'utilisation sensible, indiquées par Swisscom, elle respecte les normes en vigueur édictées par la Confédération, mais avec une marge d'erreur de 30%. Cette façon de faire me rappelle un autre dossier brûlant du côté de Haute-Saône. Quand on sait de plus que ce mât sera érigé à 5 mètres d'une maison d'habitation, on comprend que le 86% de la population s'oppose à cette construction au centre des habitations. Le gouvernement souhaite-t-il intervenir afin que les autorisations de construire de telles antennes à proximité des habitations soient systématiquement refusées en cas d'opposition des voisins ? Je remercie par avance le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la prise de position du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herré.
Monsieur le député, merci de soulever cette question qui effectivement fait l'actualité et soulève pas mal d'émotions dans la population. La preuve en est la quarantaine ou la cinquantaine de personnes qui nous a accueillis ce matin devant le Parlement. Mais peut-être préciser quelques éléments liés au principe de construction. Déjà, il faut savoir qu'un projet de construction qui est conforme aux prescriptions légales, il doit être autorisé. Nous ne pouvons pas, au niveau d'une autorité, ne pas autoriser un projet qui est conforme aux prescriptions de droit public. Ensuite, votre question demande si, en cas d'opposition, nous pouvons systématiquement annuler un permis ou le refuser. Eh bien, ce n'est pas un juste motif de refus que de dire qu'il y a des oppositions et, par principe, nous allons simplement annuler ou refuser le permis. Peut-être un autre rappel, c'est que dans le droit sur l'aménagement du territoire, il est prévu que les antennes, notamment, sont à implanter prioritairement dans les zones à bâtir. Donc c'est une volonté du législateur que de voir les constructions s'ériger là où il y a du bâti, plutôt que de les voir se disperser dans le territoire. Et à partir de là, effectivement, on en arrive à des situations où des antennes de téléphonie, de télévision ou de quelconque moyen de transmission sont établies dans le milieu bâti. Au niveau du fond du problème, cette crainte des citoyens par rapport aux ondes, là nous sommes sous un paramètre fédéral, l'ORNI, donc l'ordonnance sur la protection contre les rayons non ionisants, et cette ordonnance est très claire au niveau de ses prescriptions, et à partir du moment où les prescriptions sont suivies, eh bien à nouveau le permis ne peut qu'être octroyé. Par contre, il y a quelques éléments de prudence. Si la simulation démontre que nous sommes à 80% du seuil limité par l'ORNI, à ce moment-là, des mesures physiques sont exigées sur les bâtiments concernés, des mesures qui doivent permettre de démontrer que le rayonnement est en deçà du seuil fixé par l'ORNI. Et dans le cas où le rayonnement serait supérieur à ce rayonnement, eh bien, à ce moment-là, l'émetteur est immédiatement réduit dans sa puissance de rayonnement pour satisfaire à l'ordonnance. Maintenant, je tiens à vous dire qu'en vous répondant, monsieur le député, je me fais le porte-parole des autorités fédérales, puisque là, nous sommes dans un thème de compétence purement fédérale, et je ne peux pas faire autre chose que d'être le porte-parole. Je ne peux pas tellement m'immiscer dans les applications du droit fédéral, ce qui serait contraire au fonctionnement de notre démocratie avec des compétences fédérales, cantonales, communales et des compétences au niveau des citoyens.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation? Monsieur le député Christian Spring est satisfait. Nous passons à la huitième question orale et pour ça, je passe la parole à monsieur le député Jean-Daniel Ecker. Veuillez peut-être lever vos micros, oui, en intervenant, ça simplifie un petit peu l'audition pour l'ensemble du Parlement.
Monsieur le Président, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres, lors des élections d'octobre 2015, qui comportaient 4 élections en un seul jour, plusieurs communes du Jura avaient utilisé et testé pour la première fois Votel, un logiciel informatique cantonal qui permettait de faciliter le dépouillement des bulletins de vote, sans remplacer totalement le report des résultats sur papier. Cette aide bienvenue sous forme de tableaux liés permettait de réaliser un gain substantiel de temps et une transmission accélérée des différents scores à la chancellerie cantonale, et ceci à la satisfaction de la population et des groupes politiques. Selon mes informations, les frais d'exploitation du logiciel restaient cependant à la charge des communes. Toutes les communes n'avaient pas adhéré à ce programme puisque certaines avaient préféré utiliser un module semblable inclus dans le logiciel gérant leur administration, exemple Urbanus ou Sésame. À ce jour, il semble que le développement du logiciel Votel ait été carrément abandonné par le canton. Il faut juste espérer que cette décision ne soit pas simplement financière, car au-delà d'une éventuelle participation des communes, le dépouillement lors des élections reste de la responsabilité de la chancellerie de l'État, elle-même soutenue dans le cas présent par le service de l'informatique cantonale. Alors, le gouvernement ne cache pas ses ambitions de vouloir mettre tout en œuvre pour atteindre l'excellence numérique. Il serait navrant qu'il fasse l'économie de la mise à disposition d'un outil utile à l'ensemble des communes jurassiennes. D'où ma question. Même si l'on peut imaginer que les communes ont certainement dû se débrouiller seules lors des élections du 20 octobre dernier, le gouvernement ne pense-t-il pas pertinent de reprendre le développement du logiciel Votel version BIS, unique et gratuit pour toutes les communes? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Gerber.
Président et messieurs les députés, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de mentionner que la grande majorité des bureaux électoraux ont dépouillé manuellement, effectivement, monsieur le député, à l'aide des formulaires dépouillement papier. Seule une dizaine de bureaux de vote dans le canton dimanche passé ont utilisé un logiciel informatique. Pour toutes les communes, les résultats ont été communiqués par contre par téléphone. De manière générale, le dépouillement s'est bien déroulé sans problème majeur dans les communes qui ont utilisé l'informatique. En revanche, on a pu constater plusieurs problèmes dans les communes qui ont dépouillé manuellement. Vu les difficultés rencontrées, la chancellerie a même dû envoyer des personnes pour soutenir, aider certaines communes. On fait également le constat que les grandes communes qui, pour la plupart, ont utilisé un système informatique, ont terminé le dépouillement avant des communes beaucoup plus petites, et elles ont terminé bien plus vite d'envoyer les informations à la chancellerie. Il est, et on le constate, de plus en plus difficile de trouver du personnel formé pour ce dépouillement dans les communes. On a de plus en plus de mal de trouver des gens qui maîtrisent le dépouillement manuel, et également, en plus de gagner du temps, le dépouillement informatique permet d'intégrer plus facilement la jeune génération dans les bureaux électoraux. Afin, monsieur le député, d'améliorer et de réduire la durée du dépouillement, plusieurs pistes sont actuellement évaluées. Tout d'abord, les communes ont reçu un questionnaire à cet effet, donc elles sont consultées. Parmi les solutions envisagées, il y a la mise en place de centres de dépouillement informatisés dans les chefs-lieux. Pour les communes disposant d'un outil de dépouillement, la transmission des résultats sécurisés pourrait se faire par le guichet virtuel. C'est également une proposition qui a été faite. Différentes autres solutions, notamment la transmission d'un fichier Excel, a été proposée. Force est de constater que c'est malheureusement une fausse bonne idée qui ne réglerait pas les problèmes de transmission et les erreurs au niveau du report des données. La solution idéale, vous l'avez mentionné, serait de mettre à disposition de toutes les communes un outil de dépouillement géré par l'État. Cette solution avait été proposée en 2015, avait été utilisée par 11 communes seulement en 2015. Effectivement, vous l'avez mentionné, à la grande satisfaction de ces communes. L'abandon du logiciel n'est pas une question uniquement de coût, mais le logiciel a été abandonné par le fournisseur. C'est la première raison qui fait que l'on n'a pas pu continuer avec cette solution qui, au demeurant, coûtait extrêmement cher. Un peu moins à l'époque, d'une vingtaine de communes avaient fait part de leur intérêt pour cette solution. Donc non, monsieur le député, les communes ne sont pas laissées à elles-mêmes, elles ne doivent pas se débrouiller, elles sont accompagnées par la chancellerie, elles sont même parfois appuyées par la chancellerie à tel point que cette dernière doit se substituer à elle parce qu'elle n'arrive pas à maîtriser totalement les aléas du dépouillement. Donc des réflexions sont en cours, une consultation est également en cours et nous allons tenter d'améliorer la situation effectivement en informatisant de plus en plus le dépouillement à l'aide du dépouillement des élections.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Jean-Daniel Écœuré est satisfait. Nous passons à la 9e question orale. Je passe la parole à monsieur le député Raoul Yegui.
Raoul Yegui, député.
Monsieur le président, madame, messieurs les ministres, chers collègues, ma question fait suite à la réponse du gouvernement à ma question écrite numéro 3201 à propos du prélèvement d'une partie de la plus-value foncière. À la lecture de la réponse, je m'étonne du faible écart entre les montants des décisions qui sont très proches des montants encaissés, voire égales. Or, il devrait y avoir un écart. En effet, entre le moment de la décision à propos de la plus-value foncière et la vente éventuelle d'une parcelle, il peut s'écouler plusieurs années. Deuxièmement, mais ça fera l'objet d'une autre intervention, je me demande à quoi est utilisé le fonds. En principe, on devrait le dépenser pour le développement vers l'intérieur et, par exemple, subventionner les communes à cet effet. Enfin, je constate que la liste des communes pour lesquelles il y a eu des décisions de prélèvement semble concerner uniquement des communes qui ont fait des adaptations et des révisions partielles de leur plan d'aménagement local. Il n'y figure pas, me semble-t-il, de communes ayant terminé une révision complète de leur plan d'aménagement local. Je pense, par exemple, à Courchavon. Le plan d'aménagement local de Delémont a été approuvé par le canton le 12 septembre 2017 avec 30 jours de délai de recours. Il a donc déployé ses effets le 10 octobre 2017. Le délai légal de 2 ans pour établir les décisions est donc échu. Et vu la taille des parcelles concernées à Delémont, il devrait s'agir de plusieurs centaines de milliers de francs. Dans sa réponse du 10 septembre, le gouvernement notait que les décisions de prélèvement de plus-value concernant Delémont seraient rendues début octobre, soit dans le délai légal de 2 ans. Sachant que les communes peuvent bénéficier de ces montants pour aider à développer leur centre, le gouvernement peut-il nous informer à combien s'élève actuellement le fonds 5 LAT, mis à jour avec les données de Les Montaignes et les autres communes ayant révisé complètement leur PAL? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Charles Juillard.
Charles Juillard, ministre des Finances.
Pardon, monsieur le ministre David Herré.
Voilà, monsieur le député, merci pour votre question qui n'est pas si facile à répondre puisque, effectivement, vous avez fait un assez bon inventaire de la situation par rapport à ces prélèvements de taxation sur la plus-value. Simplement, il y a certaines procédures, certains procédés qui sont à suivre. Vous mentionnez l'exemple de Léman, par exemple, où effectivement le délai est échu pour notifier la décision de taxation. Il y a des procédures en cours, il y a notamment des oppositions à traiter, donc tout n'est pas immédiat. Et il faut savoir également que la plus-value est prélevée au moment où le terrain est construit ou subit une aliénation. Donc à ce moment-là, il n'est pas possible de vous donner un chiffre avec une projection des encaissements liés au plan d'aménagement local de Delémont. Et de par le fait que, justement, des oppositions sont en cours, tout n'est pas encore défini clairement. Par contre, le dossier est suivi de façon très rigoureuse. Nous avons également pu observer que cela nécessite plus de ressources que nous avions prévues à la base, mais cela n'empêche pas que le travail se fasse de la meilleure des manières au niveau de l'administration. Au niveau du chiffre que vous souhaitez, j'ai en mémoire que dans les comptes 2018 publiés cette année, il y avait pour le fonds Saint-Clat environ 20 000 francs, donc pas un montant très significatif par rapport à ce que nous souhaitons en faire, notamment pour venir en aide à certains villages, à certaines redensifications de certaines zones d'habitation. Mais effectivement, la taxation de la plus-value sur la zone de Delémont apportera probablement, comme vous le mentionnez, plusieurs centaines de milliers de francs à ce fonds qui permettront, bien évidemment, d'agir de façon plus efficace que nous avons fait par le passé. Voilà ce que je peux vous donner comme information, monsieur le député. Pour d'autres détails, je suis à disposition, mais c'est vrai qu'il m'est difficile de vous donner tous les chiffres, ne les sachant pas tous par cœur.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation? Monsieur le député Raoul Yegui n'est pas satisfait. Nous passons à la 10e question orale et pour ça, je passe la parole à madame la députée Pauline Queloz.
Pauline Queloz, députée indépendante de Saint-Brieuc.
Monsieur le président, madame et messieurs les ministres, chers collègues, ma question porte sur le même sujet que celle du député Nicolas Maître. La RTS nous informait hier que certaines entreprises intéressées par l'appel d'offres lancé par le canton du Jura pour son réseau de lignes de bus utilisent des méthodes surprenantes, voire douteuses, pour remporter la course. Certaines sociétés étrangères envoient notamment des espions pour prendre des photos des bus, filmer les chauffeurs, leur poser des questions sur leur salaire et leurs conditions de travail. Certaines organisent même des séances en se faisant passer pour des instituts de sondage auprès des citoyens. On promet aux personnes intéressées une rémunération de 80 francs pour leur présence, mais en contrepartie, on leur fait signer une décharge qui interdit aux participants de divulguer les propos tenus lors de cette séance. Une fois sur place, on leur dévoile être un concurrent intéressé à tout savoir sur le prestataire actuel Carpostal afin de faire mieux que lui. Mon but n'est évidemment pas ici de défendre Carpostal qui nous a largement déçus et trompés ces dernières années. Mais les chauffeurs de bus n'y peuvent rien et sont malheureusement les principaux visés par ces méthodes. Ils ne supportent plus cette situation qui s'apparente certaines fois à du harcèlement à leur égard. Sans refaire l'historique de pourquoi on en est arrivé à lancer un appel d'offres, monsieur le ministre l'a déjà fait tout à l'heure, ma question est de savoir ce que pense le gouvernement de ces manières de faire des entreprises dans la course à l'attribution des lignes de bus. Va-t-il rester impassible face aux pressions que subissent les chauffeurs et va-t-il tenir compte des méthodes de certaines entreprises candidates au moment de l'attribution? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
Voilà, madame la députée, effectivement, le gouvernement a également observé via les différents médias qui l'ont rapporté les agissements très agressifs, voire très dynamiques de certains acteurs qui souhaitent essayer d'obtenir ce marché. Nous avons également reçu l'information que les entreprises actuelles sont informées par leurs collaborateurs des différents agissements qu'ils observent. Et que tant que cela reste dans la légalité, il est évidemment impossible de faire quoi que ce soit. C'est également, semble-t-il, une pratique assez courante dans d'autres pays d'Europe, où les mises au concours sont une habitude qui est peut-être plus ancrée dans les mœurs qu'en Suisse, où en Suisse, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas habituel pour le moment, mais qui est par contre préconisé par l'Office fédéral des transports. L'Office fédéral des transports, donc, qui recommande, si possible, de mettre au concours les marchés publics dans les transports publics, aussi pour avoir une saine concurrence entre les différents acteurs. Donc au niveau de votre question, à savoir est-ce que les agissements des uns et des autres durant la procédure de montage du dossier d'appel d'offres seront tenus compte pour l'adjudication, je dirais que tant que les procédures respectent la légalité, que les offres correspondent à l'appel d'offres qui a été lancé, il n'y a pas d'un critère qui permet subjectivement de juger l'une ou l'autre, puisque nous n'avons pas, nous, au niveau de l'État, au niveau du canton du Jura, respectivement du canton de Berne et d'OFT, les trois commanditaires de cette zone, nous n'avons pas nous-mêmes mandaté d'espions pour espionner les espions des entreprises que vous avez citées. Donc il nous serait difficile de pouvoir évaluer le niveau d'observation développé par les uns ou les autres. Ce qui compte pour nous, c'est qu'à la fin, le marché soit attribué à une entreprise compétente qui offre des conditions de transport et de travail correctes, identiques, si possible, à ce que nous connaissons actuellement, voire mieux au niveau du contrôle financier que nous pouvons avoir de ses partenaires.
Merci, monsieur le ministre. Madame la députée, quelle est votre appréciation? Madame la députée Pauline Quelot est partiellement satisfaite. Nous passons à la 11e question orale. Pour ça, je passe la parole à monsieur le député Quentin Haas.
Quentin Haas, député PCSI de Cornouailles.
Monsieur le président, chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, les services industriels de Balleville ont dernièrement annoncé en grande pompe vouloir construire une installation de pyrolyse sur sol balois. Ce type d'installation permet notamment de produire du chauffage et du fertilisant à partir de déchets organiques. À terme, le gouvernement balois estime retirer 1500 tonnes de CO2 par an de l'atmosphère avec cette installation. La biomasse utilisée proviendra de déchets végétaux pauvres et inutilisés qui seront chauffés. La chaleur produite sera injectée dans le réseau de chauffage urbain et suffira pour 300 ménages moyens. Le résidu de cette combustion, un type de charbon appelé biochar, est couramment utilisé en agriculture comme fertilisant. Ainsi, outre le chauffage, les services industriels balois prévoient de fabriquer 570 tonnes de fertilisants organiques par an. Une telle installation est donc capable de valoriser les déchets végétaux, de produire de la chaleur et du fertilisant, tout en restant pratiquement neutre en termes d'émissions de CO2. Le gouvernement peut-il dès lors nous indiquer si la création d'une telle installation dans le canton du Jura est envisagée ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
Voilà, monsieur le député, votre question effectivement fait suite à l'annonce de Balleville d'avoir développé une centrale de pyrolyse. Et je vous dirais quelque part, oui, nous avons déjà de telles installations dans le Jura, qui ne s'appellent pas pyrolyse, mais centrale de biogaz, qui fonctionnent selon le même principe, avec notamment une grande installation qu'on voit le long d'autoroute quand on va sur Boncourt, qui permet effectivement d'utiliser ou de valoriser la biomasse agricole, également les végétaux. Et ceci permet effectivement déjà aujourd'hui de produire de la chaleur et de l'électricité via un couplage chaleur-force. Et donc ceci est déjà en fonction, mais sous une autre forme que ce qui est prévu à Bâle. Ce qui est prévu à Bâle, c'est une pyrolyse. Il y a des études qui sont en cours au niveau fédéral et qui démontrent que le rendement est moins bon que sur les centrales biogaz que nous avons déjà dans le Jura et qui sont également en projet pour d'autres que nous souhaitons également voir se développer. Donc ce n'est pas forcément quelque chose que nous souhaitons développer de par ce faible rendement. Nous préférons donc privilégier la piste de la combinaison entre biomasse agricole et déchets végétaux qui permet, on le voit déjà actuellement, de valoriser toute cette énergie, entre guillemets, issue de la biomasse, de la transformer en chaleur ou en électricité. Et ceci semble être couronné de succès pour les acteurs actuels et nous souhaitons que les projets futurs se développent. Par contre, je tiens à préciser que la pyrolyse peut être aussi utilisée avec des déchets de bois. Donc ce pourrait être une piste intéressante de par les déchets de bois que nous avons suite notamment à la catastrophe forestière. Toutefois, là aussi, vu le rendement pas très intéressant de cette technologie, nous préférons privilégier au niveau du bois son utilisation comme bois énergie, notamment sous forme de thermoréseau, sous forme de chauffage individuel avec des bûches ou avec des pellets. Et ceci est évidemment positif à la fois pour l'énergie locale et l'économie locale forestière, mais également pour l'environnement, puisqu'un chauffage à bois a un bilan CO2 égal à zéro, puisque le CO2 qu'il rejette est le CO2 que le bois a absorbé pendant sa croissance. Donc voilà plutôt les pistes que nous privilégions, donc la bio, les centrales de biogaz comme actuellement, à continuer à développer, et le chauffage bois pour valoriser le bois qui est dans nos forêts encore à disposition de façon significative, puisque l'exploitation forestière actuelle est inférieure à la production de bois de nos forêts.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation ? Monsieur le député Quentin est satisfait. Nous passons à la 12e question orale. Pour ça, je passe la parole à monsieur le député Didier Spies.
Didier Spies, député UDC.
Monsieur le président, chers collègues, madame et messieurs les ministres, en utilisant régulièrement les transports publics, j'ai dû constater ces derniers temps que l'entretien des véhicules de l'entreprise Carpostal laissait à désirer et certains parents l'ont également constaté. Voici deux exemples. Des portes qui ne se ferment plus aux arrêts. Temps perdu par arrêt, 1 à 2 minutes. Un bus qui ne part plus à un arrêt. Réinitialisation du système, on peut prendre la route avec 3 minutes de retard. Ici, rien de grave pour l'instant au niveau de la sécurité des passagers. Le vacarme généré par les vibrations des portes n'a pas non plus un impact sur la sécurité, mais plutôt sur le confort des utilisateurs. L'arrivée en retard à Delémont pour les correspondances des CFF liée à ces dérangements est toutefois plus énervante, mais n'a rien à voir non plus avec la sécurité. Tous les jours, un très grand nombre d'élèves utilisent ce moyen de transport et pour les parents se posent certaines questions. Est-ce que les portes peuvent s'ouvrir durant le trajet et mettre en danger les passagers? Est-ce que les freins et les autres dispositions de sécurité sont bien entretenus? Les parents se font du souci et le groupe UDC également. Car nous avons appris que dans le canton de Saint-Gall, un véhicule de carte postale avait dû être retiré de la circulation pour des bruits anormaux à l'essieu arrière. Ce véhicule n'a plus été réparé et n'est plus en circulation à ce jour. D'où ma question au gouvernement. Qu'en est-il de la sécurité des utilisateurs des transports publics, en particulier avec les véhicules de l'entreprise Carte Postale Suisse SA dans notre canton? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
Voilà, monsieur le député, je dois vous avouer que je ne suis pas passé à l'atelier ce matin de carte postale, donc je n'ai pas fait un dernier état de situation de l'état des véhicules. Mais effectivement, pour répondre à votre question, pour le gouvernement, la sécurité dans les transports publics est fondamentale et est même capitale. Nous ne souhaitons jamais voir la sécurité mise en péril de par une quelconque raison. Et par rapport aux éléments que vous mentionnez, bien évidemment que je ne suis pas au courant en détail de chacun. Mais je vous suggère de me faire part peut-être en détail des événements avec peut-être des indications plus précises au niveau des dates, des heures où se sont déroulés ces événements ou ces observations. Et nous pourrons ainsi contacter l'entreprise concernée pour demander toutes les garanties quant à la sécurité des passagers et aussi des conducteurs de ces bus.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation? Monsieur le député Didier Spies est satisfait. Nous passons à la 13e question orale. Pour ça, je passe la parole à monsieur le député Alain Schwein-Groubert.
Alain Schwein-Groubert, député PLR de Bricourt.
Monsieur le ministre, la question que je vais poser a été partiellement évoquée tout à l'heure. Personnellement, je la traiterai sous un autre angle. Dans le cadre de l'appel d'offres relatif aux lignes de bus, indépendamment des soumissions provenant de l'étranger, et qui peuvent effectivement être très inquiétante. Il s'avère que l'entreprise des CJ, qui s'est adjointe les services d'une entreprise fribourgeoise, a également postulé. Je trouve ça tout à fait rassurant, c'est sur le fond, c'est fort bien que des entreprises régionales ou jurassiennes s'intéressent évidemment à ce marché. Mais il y a là un mais sur le plan formel, il s'avère que le canton est actionnaire des CJ. Et dans ce cas, il aurait évidemment le rôle d'adjudicateur et d'adjudicataire. En la matière, ça peut poser un sérieux problème en matière de droit public, de marché public et de la procédure qui y est adjointe. Je pense donc que c'est un peu périlleux et je demande au gouvernement de nous dire ce qu'il en pense à ce sujet.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
Voilà, monsieur le député, alors peut-être une petite correction dans l'affirmation de votre question. Vous déclarez que le canton du Jura est adjudicateur et adjudicataire. Alors ce n'est pas le cas, puisque l'adjudicateur officiel est l'Office fédéral des transports pour ce qui est des transports publics par bus, pour ce qui est de l'appel d'offres concerné. Donc le canton du Jura proposera une adjudication à l'Office fédéral des transports en tenant compte de l'analyse des dossiers qui sont à recevoir jusqu'à fin novembre. Donc là également, vous dites que vous savez que telle était l'entreprise à soumissionner. À ma connaissance, nous n'avons pas reçu de dossier à ce jour, donc peut-être que vous avez d'autres informations. Mais le délai de remise du dossier est à fin novembre, et donc c'est à ce moment-là que nous analyserons les offres et que le canton du Jura, en coordination avec le canton de Berne, qui est également partie prenante, puisque certaines lignes concernent également le territoire cantonal bernois, eh bien le canton du Jura proposera une adjudication à l'Office fédéral des transports qui, en tant qu'adjudicateur, à ce moment-là, prendra sa décision officiellement. Et ceci ne nous inquiète pas autre mesure, puisque c'est une pratique qui est déjà utilisée dans le droit suisse, notamment lorsque l'Office fédéral des transports, adjudicateur, adjuge des lignes de transport public par train, par exemple, à la compagnie de chemin de fer fédéraux, qui appartient également à la Confédération, qui est l'employeur de l'Office fédéral des transports. Donc nous avons l'impression que juridiquement, c'est une possibilité qui est légale, qui est conforme au droit sur les marchés publics au niveau des transports publics, puisque c'est déjà pratiqué par la Confédération depuis de longues années.
Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation? Monsieur le député Alain Schweingruber est satisfait. Nous passons à la 14e question orale et pour ça, je passe la parole à Monsieur le député Philippe Rotet.
Avant-dernière question avec Philippe Rotet, député UDC de Delémont.
Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame, Messieurs les ministres, la semaine dernière, un drame conjugal a fait deux morts. Le ministère public a retiré les armes que possédait le meurtrier tout en lui demandant de ne pas s'approcher du domicile conjugal. Ces mesures ont été sans effet. N'aurait-il pas été plus judicieux d'imposer le bracelet électronique? Madame la ministre, allez-vous prendre langue avec le ministère public afin d'étudier cette possibilité à l'avenir, bien évidemment? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à madame la ministre Nathalie Bartolo.
Nathalie Bartolo, ministre de l'Intérieur.
Monsieur le député, le gouvernement a appris avec effroi l'épouvantable drame qui s'est déroulé à Courfèvre la semaine dernière et il tient ici à présenter ses sincères condoléances à la famille et en particulier aux trois enfants du couple décédé. À ce stade, je ne souhaite pas communiquer sur cette affaire étant donné que l'enquête est encore en cours et que le scénario du drame n'a pas encore été clairement établi par le ministère public. Je tiens toutefois à remercier tout particulièrement le ministère public et la police cantonale pour la qualité de leurs interventions le jour du drame et les jours qui ont suivi, ainsi que tous les autres intervenants. Dans le prolongement de cette tragique et dramatique affaire, le gouvernement veillera à ce que les entités étatiques et para-étatiques concernées procèdent à une étude détaillée des éventuelles mesures supplémentaires qui auraient pu être prises pour éviter un tel drame, en particulier dans les domaines de la détection de la dangerosité des individus et dans la prise en charge des victimes de violences conjugales.
Merci, madame la ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation? Monsieur le député Philippe Rotet est partiellement satisfait. Et pour la 15e question orale, je passe la parole à monsieur le député Alain Lachat.
Alain Lachat, député PLR de Frégicourt.
La question que je voulais poser a été annoncée par le député Ecker, donc je n'interviens pas.
Merci, monsieur le député. Nous avons donc ainsi passé les 15 questions orales. Il est 9h30, nous pouvons poursuivre notre ordre du jour.
C'est donc la fin des questions orales ici à l'hôtel du Parlement. Vous pourrez toutes les retrouver en podcast un peu plus tard à la journée sur notre site internet. Je vous souhaite une belle journée.